C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
Robert,
c'est ça. Regarde tout le temps.
Ben oui, je parle aux autres. Je m'excuse.
J'aime pas ça.
Il n'y a pas que toi dans ma vie.
Parle à Val, mais regarde-moi.
Donc, Val nous a parlé de sa belle-fille qui s'est pété la gueule dans les marches.
Oui, absolument. Elle s'est pété la gueule. Je l'ai regardée tomber tout le long des marches, mais tout le long dans les airs. Elle a tenu glorieusement son cellulaire. Et il n'a pas été pété à la fin, pantoute.
Oui, vous nous avez confié donc vos chutes qui auraient pu être tragiques, mais où vous avez réussi à garder quelque chose dans vos mains.
Ah, c'est drôle.
On va aller au téléphone pour vous écouter parce qu'honnêtement, ça vaut la peine. Valérie de Sainte-Sophie, bon matin.
Hey, bon matin, la gang.
As-tu réussi à sauver ton compost, finalement?
Non, pas ça.
Explique-nous ce qui est arrivé.
Ben, écoute, moi, j'ai 6 marches à descendre chez nous, puis mon entrée est vraiment à pic, qui est vraiment longue. J'ai comme au moins 6 autos de long que tu peux déstationner. Puis, je suis assez maladroite, et je glisse toujours dans mon entrée. Les pieds me partent tout le temps. Et cette journée-là, c'est journée ménage et ainsi de suite. J'ai un bon gros bol de compost que je m'en vais porter en bas de mon entrée. J'ai glissé dans la fente jusqu'à temps que je perde le contrôle. Et je l'ai tenu pas en bol de compost, mais tellement que c'est ça, je l'ai reçu en pleine face sur mon linge.
Pauvre toi, Valérie. Écoute, on compatit, mais on peut pas s'empêcher de rire.
Mais oui.
Ben non. C'est un peu comme drôle de vidéo. Le monde se font mal un peu, mais ça reste drôle pareil.
C'est
merci
ça.
Beaucoup, Valérie, pour ton appel. Et merci pour ta transparence. On a Noah, maintenant, qui est au bout du fil. Salut, Noah.
Yes, salut, ça va bien?
Ah ouais? Toi, t'es tombé dans les marches avec quelque chose dans les mains. C'était quoi?
Ouais, il y a à peu près 10 ans, là, j'étais comme pas très concentré, vu que je venais juste de comme vivre... la célébration de vie de mon père qui était décédé à ce moment-là, puis c'est à peu près la même température, puis c'est à peu près en fait les mêmes temps. Fait que là, je marche, puis je me rends pas compte que je suis en haut de la cage d'escalier, là. Fait que je suis tombé directement sur le cul, puis j'ai déboulé les marches jusqu'en bas, mais avec l'urne des mains, puis une urne, ben,
non!
Ça bronze, ça pèse une tonne. Fait que je me suis dit, ah, une dernière fois que je vais pas laisser tomber mon père.
Est-ce que t'as réussi?
Wow!
Ah ouais, ça a fait mal, mais j'ai été correct. Fait que,
Aïe, 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 Noah!
Mais c'est magnifique! Hey, le support familial, hein. Impressionnant.
Tu t'es cassé le cul pour lui.
Exactement.
Mais quelle histoire! T'es bien fin de nous l'avoir conté.
Noah.
Merci, Noah.
Pas de trouble.
Salut.
Bonne journée.
Message texte, il y en a plein, là.
Il y en a tellement. Moi, c'est Cynthia Forté qui me fait le plus rire. Elle dit, je suis en skate électrique, je descends une petite pente, il y a une des roues avant qui entre dans un trou. Elle passe par-dessus le skate, elle fait une culbute dans les airs et elle se retrouve assise au sol. La seule affaire qu'elle a gardée dans sa main, sa canette de Monster. Elle a déjà gardée, puis elle dit, quand je suis assise sur le cul par terre, j'ai pris une petite gorgée puis je me suis relevé.
Hey, mais ça, c'est parfait.
Et de tous les breuvages, celui que tu peux échapper, c'est le Monster.
Oui, oui, honnêtement. Il peut te décaper de l'asphalte, tu comprends?
Oui.
Mais je veux saluer, mention spéciale à Stephen Zerbinski qui vient juste de quitter, mais qui avant nous a quand même raconté qu'il a glissé sur la glace avec un sac de la SAQ. Tu sais, celle-là que tu peux mettre 4 bouteilles, là?
Oui.
Le sac a revolé dans les airs. Il a fait un 360 et est revenu proche du sol, mais n'a cassé aucune bouteille.
C'est ça.
Incroyable.
Stephen Zerbinski, The Machine.
C'est une petite acrobate, ça.
Ah oui, 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 on le dit pas assez souvent.
Non, effectivement, on le dit pas en tout.
Des comiques, de retour après ceci. Debout les
comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Val nous parle de son accouchement de livre.
Oui.
Aujourd'hui, aux éditions Trécarré, Postpartum arrive.
Exactement. Ouais, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis les 2 dernières années. Parce que ma fille, elle a 2 ans et demi. Quand ma fille avait 6 mois, j'ai réalisé que ce que je venais de vivre depuis les derniers 6 mois avait été extrêmement difficile, puis que j'étais pas capable d'en parler parce que j'étais trop honteuse.
Et trop honteuse, et est-ce que c'est aussi difficile de mettre des mots sur les émotions qu'on n'a jamais vécues, peut-être?
Oui, c'est sûr que quand tu as un premier enfant, tu t'attends pas à ce qui se passe, mais surtout, moi, ce que je trouvais, c'est que je me sentais incompétente. Je me sentais comme si j'avais pas d'instinct maternel, puis que je devais être la seule personne au monde qui avait pas ça, parce que t'es donc bien supposée de voir tomber en amour immédiatement dès que tu vois ton enfant. Puis moi, je trouvais pas que c'est ça qui s'était passé. Puis j'étais anxieuse, fait que j'avais tout le temps peur qu'elle meure. Fait que j'étais pas capable de me laisser aller à tomber en amour avec elle parce que je me disais, la journée où on va me l'enlever, c'est sûr que je vais mourir. Fait qu'il y avait tellement d'émotions dans ma tête puis tellement de sentiments que j'arrivais pas à contrôler que je me disais, oh man, j'ai vraiment fait une erreur. J'aurais pas dû avoir d'enfant. Cette fille, c'est pas fait pour moi, je mais là, je suis prise.
Pendant combien de temps?
Et jusqu'à quel âge? Pendant des mois.
Voyons donc.
J'arrêtais pas de fouiller sur Internet pour essayer de trouver d'autres personnes qui disaient ça. Puis tout ce que je trouvais, c'est des conseils de psychopop, tu sais, donnez-vous du temps, blabla. Mais moi, je me sentais tellement toute seule, puis tellement honteuse, parce que je me disais, si je trouve rien sur Internet, c'est parce que je suis la seule qui vit ça.
Ouais.
C'est sûr que je suis la seule personne qui vit ça.
Et pourtant.
Ouais, mais l'affaire, c'est qu'on n'en parle pas. Puis quand j'ai commencé à en parler avec une personne autour de moi avec qui j'avais confiance, puis une autre, mais j'ai catché que j'étais loin d'être la seule, puis je me suis dit, il faut que j'écrive un livre là-dessus.
Parce que le postpartum,
il faut que les autres mamans le sachent.
Le postpartum, j'ai souvent entendu parler de ça, mais sans nécessairement comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et si je comprends bien, c'est un peu ça.
Ben oui.
Parce que, tu sais, il y a différentes femmes qui vont vivre leur postpartum différemment. Nous autres, c'est une grossette sympathique là, chez les hommes. Ben c'est bien loin d'être la même affaire, tu comprends?
Tu prends du poids puis t'es malheureux après.
C'est... ça. Ah ouais. Mais non, mais le sentiment de pas savoir comment faire, puis de, tu sais, il doit y avoir des gars qui l'ont, mais
évidemment.
Vous vivez tellement d'émotions suite à l'accouchement en plus, et votre corps est modifié.
Et de transformation, tu sais. Puis elles sont, je pense qu'elles sont physiques, puis là, je me mets à la place.
Vas-y, vas-y.
Elles sont physiques et professionnelles. Je pense que de nos jours, on met beaucoup d'accent, puis, et c'est parfait, les femmes ont une place sur le marché du travail, puis ont des carrières qui sont impressionnantes,
c'est
florissantes, etc.
Pression.
Et là, la pression, elle arrive de tous bords, tous côtés. J'ai l'impression qu'avant, c'est quelque chose qui est abstrait, qu'on ne peut pas concevoir. Et quand ça arrive, c'est une vague qui est énorme.
Et pour te rendre compte de tout ça, est-ce que tu as consulté?
Ben oui, c'est sûr.
Ouais.
Puis moi, ce que je comprenais pas, c'est que j'étais pas en dépression. Tu sais, parce que souvent, mettons, postpartum, on pense que automatiquement c'est une dépression. Mais postpartum, c'est la période. Puis je trouvais qu'on parlait beaucoup soit de la mère qui a trouvé sa vocation en ayant un enfant, ce qui est formidable, ou bien de la femme qui vit une dépression postpartum, tu sais, qui va vraiment pas bien, qui va vivre des psychoses même parfois, qui peut être internée, tu sais, ça peut aller loin, là, ce que la femme vit après.
Qui n'a pas de durée déterminée en passant, ça peut être très long, un postpartum.
Infiniment long. Mais mettons, le commun des mortels, la majorité des femmes, là, lorsqu'elles accouchent, là, elles peuvent se sentir isolées, elles peuvent sentir qu'elles sont dans une période où la relation avec leur corps va pas bien. Tu sais, quand tu sors avec un bébé neuf, mais que t'as encore une bédaine, puis que tu mets une couche d'adulte, là, tu te sens pas au sommet de ta gloire.
Ah, c'est sûr.
La relation avec ton amoureux, des fois, ou ton partenaire, tu sais, si t'as une conjointe plutôt, ça aussi, c'est dur. Tu sais pas comment l'autre est dans une relation où il devient un parent.
Absolument.
Tu sais. Mais ça, c'est confrontant.
Tu nous en parles donc dans ton livre qui sort aujourd'hui, Postpartum. Félicitations pour ça. Mais juste en terminant, c'est important, il y a de l'espoir. On s'en sort.
Oui, oui, oui. Okay. Puis l'idée, c'est ça aussi. C'est de dire, tous les sentiments que tu peux vivre, ils sont valides, mais tu sais, il faut que t'en parles, puis tu vas finir par t'en sortir.
C'est le lancement aujourd'hui. Ça sort mercredi en librairie. Et écoute, pour te dire à quel point ça touche les gens sur la messagerie texte, il y a Sabrina qui dit « J'ai un bébé de 2 mois et honnêtement, je vais aller chercher ton livre. Je vais juste t'écouter ce matin et je pleure.
Ah, »
Gabrielle, j'ai le même feeling qu'un jour qu'il y a quelqu'un qui va venir enlever mon bébé parce que ça a été trop facile de l'avoir. Écoute, il y en a.
T'es comique, de retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande.
Mon père, Mario Lirette, qui a fait de la radio pendant plus de 40 ans, à qui j'ai parlé hier, m'a raconté une histoire que j'avais jamais entendue. Je pensais les avoir toutes entendues, ces histoires. Des fois, il les répète, tu sais. Mais celle-là, je l'avais jamais entendue. Puis j'ai dit, hey, je vais en parler en ondes. C'est drôle, hein, s'il vous plaît. T'sais, il fait plus de radio aujourd'hui.
Ouais.
Mais là, il me dit, non, je vais garder l'histoire pour mon livre. C'est mal me connaître. Ça va me faire plaisir de la raconter. Écoute, il écrira d'autres choses dans le livre. Il y a toujours plein d'autres anecdotes. Il me raconte. On est au téléphone, puis là, FaceTime. Et je vois derrière lui un Félix. Le trophée, le Félix, tu sais, dans le temps des Metro Stars, si je me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Et je me dis, mais voyons, pas, on récompense pas les animateurs radio dans ce gala-là. Comment ça que t'as un Félix? Et il dit, ah ça, c'est une longue histoire. T'es-tu prête? Je dis, ben OK. Moi, fait que là, je vais vous la résumer, comprends-tu? Il m'explique que... Un jour, à la radio, quand il travaillait, il y a peut-être de cela une quinzaine d'années, il y a un groupe d'individus, des fans de son émission, qui sont venus une délégation pour le remercier et le féliciter avec un cadeau emballé. Cadeau qu'il déballe et c'est le Félix. La gang lui remet en lui disant « Hey, c'est ton Félix comme étant le meilleur animateur, blablabla. »
On tripe
sur toi, c'est le fun. » Il fait « Wow, mais c'est bien cool, sauf que comment vous avez eu ça, un Félix? » Il regarde en dessous, il n'y a pas de plaque. La plaque a été probablement arrachée. Et il garde le Félix depuis tout ce temps-là. Aujourd'hui, c'est dans son étagère à la maison. La preuve, je l'ai vu hier en FaceTime. Et là, je me dis, OK, c'est bien beau tout ça, mais toi, Pat, tu sais, t'as pas gagné pour vrai un Félix. Il dit, ouais, je l'ai mérité quand même, mais je sais, je l'ai pas vraiment gagné, mais je dis, il vient d'où? Il dit, je pense que c'était Paul Piché.
Pardon?
Parce que Paul Piché aurait raconté à... Tout le monde en parle, je me souviens pas quand, faut que j'aille vérifier ce bout-là, c'est mon père qui me le compte. Il aurait raconté à tout le monde en parle que dans sa jeune carrière, il a pitché un Félix par la fenêtre parce qu'il voulait pas, il méritait pas, ça ne tentait pas de l'avoir, et aujourd'hui, il s'en veut. Mais le Félix aurait atterri dans un bac à vidange et quelqu'un l'aurait pris, et ce Félix-là, d'endroit en endroit, a fini par se retrouver potentiellement chez mon père.
OK, fait que c'est un Félix du gala de la disque.
Ou c'est un... j'ai-tu dit...
Oui, c'est la disque.
Excuse-moi, t'as raison.
Mais quand même, dans tous les cas, il n'aurait pas pu le gagner plus.
Non, non, exactement. On donne pas de trophée aux animateurs de radio. Là. À part aux Olivier, si tu travailles pour Radio-Canada. Mais sinon...
Oh, je pense que t'as pas le piché, ça.
le pire, c'est qu'on ne le saura probablement jamais, puisqu'il y a une deuxième histoire d'un Félix volé. Mais on sait pas il est où, on sait pas à qui, mais il y a un Félix en quelque part, un deuxième qui aurait été volé. Fait que c'est-tu celui-là de Paul Piché? Ou c'est-tu celui-là qui a été volé ailleurs? On ne sait pas personne. En attendant, c'est sur son étagère.
Je te mets
maison.
Au défi. Je pense que
on fait des recherches.
Dans ton émission, là, vous revenez en ondes, le retour avec Kim puis avec Oli.
15h.
Je pense que vous devriez faire des recherches, tenter de parler à Paul Piché, savoir si l'histoire c'est vrai, savoir si potentiellement quelqu'un aurait pu... Moi, à ta place... Je chercherais c'est à qui ce Félix.
Et c'était mon intention.
Oh,
ah ouais.
Yes!
Ah ouais, tu penses-tu vraiment que je vais laisser ça de même?
Oh my God,
je veux savoir c'est à qui le maudit trophée. Il dit je vais te le laisser mais que je meurs. Non 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 non, tu vas le redonner au gars à qui ça appartient. Check bien ça.
C'est bon.
Donc je fais des recherches.
Le podcast Debout les comiques.
Content de te retrouver, Mickaël.
Moi aussi, bonne année à toi. Je sais bien qu'on est le 16 et qu'au Québec, on n'a pas le droit de souhaiter bonne année passer le 15, mais comme moi je suis franco-québécois, j'en ai rien à cirer.
J'aime ton attitude. Alors qu'on parle de quelque chose de pas mal triste, là, il y a des gens qui ont commencé à nous écrire des questions parce que ça soulève l'indignation. M'a dit, il y a une adolescente de 16 ans, malheureusement, qui est décédée d'une complication liée à la contraception qu'elle avait sous forme de timbre.
Oui.
Comment ça se peut? Puis comment on peut éviter ça?
Oui, absolument. Donc cette chronique c'est quand même bien important parce que on va un peu parler de contraception. Je sais que il y a quand même beaucoup de parents là qui sont en train de préparer le déjeuner, qui sont au café, qui ont ce genre de discussion avec leurs adolescents ou cette discussion on s'en vient. Moi-même j'ai également 4 enfants et ça va m'aider à préparer cette discussion que je fuis. ma première fille elle a 28 ans, je lui en ai toujours pas parlé, non c'est pas vrai. Mais en tout cas, il y a plusieurs moyens de contraception que tout le monde connaît bien. Il y a la pilule contraceptive, évidemment. La pilule contraceptive, elle a plutôt mauvaise presse parce qu'elle contient beaucoup d'œstrogènes, elle contient beaucoup d'hormones. Il y a pas mal d'effets secondaires.
Historiquement, est-ce qu'on a des gens qui sont décédés à cause de la pilule?
Alors, à cause de la pilule contraceptive, on avait beaucoup d'effets secondaires. On avait beaucoup d'effets secondaires, y compris des effets secondaires qui étaient parfois mortels.
Oh.
Les effets secondaires avec les œstrogènes et les hormones qui sont parfois mortels. Alors, les hormones, il y en a aussi dans les stérilés. Pas tous. Il y a des stérilés qui sont avec et sans hormones. Il y en a aussi qui sont avec... il y a des implants qui se font sous la peau. Et en fait, la complication qu'il y a eu avec cette jeune fille, c'est quand même justement quelque chose, un moyen de contraception qui est quand même mieux accepté, avec moins d'effets secondaires, qui étaient ces timbres-là. Les timbres, c'est des petits patchs autocollants que les jeunes filles se collent sur la peau, qu'elles doivent changer à tous les 3 jours pendant la durée du cycle. Il y a moins d'hormones là-dedans, mais évidemment aussi que ça fonctionne avec des hormones. Pour l'instant, les moyens contraceptifs, à part évidemment mettre un condom, etc., la plupart du temps, ça fonctionne avec des hormones.
Mais comment c'est possible qu'on puisse se rendre jusqu'au décès?
Alors, quand il y a une augmentation d'hormones et notamment l'augmentation de certains œstrogènes, tu peux avoir une complication d'ordre thromboembolique, c'est-à-dire que ça va favoriser la formation de caillots dans le sang. La plupart du temps, quand cette complication arrive, elle est malheureuse, mais une fois sur 3000, ça va être une complication d'ordre comme une thrombose veineuse profonde, on appelle ça, c'est-à-dire une phlébite. La phlébite, ça va être dans la jambe, ça va être dans le bras, ça va être plutôt bénin et ça va se solutionner assez facilement. Mais la jeune fille, elle est morte d'une embolie pulmonaire. C'est-à-dire que quand tu fais un caillot dans une veine, ce caillot peut devenir un peu plus volumineux, partir dans la circulation et aller bloquer les gros vaisseaux au niveau thoracique. Ça se passe dans le poumon et ça, c'est une embolie pulmonaire.
Mais Michael, il y a Annick Lalumière sur la messagerie texte qui nous a écrit pour nous dire, vous parlez du thème de contraception, j'en ai des frissons. En 2016, j'ai reçu un diagnostic, une thrombose veineuse sinus cérébrale, donc un caillot directement au cerveau. Et après plusieurs recherches, pendant plusieurs mois, c'était dû à ce fameux thème contraceptif-là. Oui.
C'est pour ça que on appelle les auditeurs et les auditrices à la vigilance. C'est comme si, en fait, quand on met ces timbres-là, on a l'impression que il se passe rien, pas grand-chose, que c'est pas vraiment un médicament, qu'on n'a pas besoin de s'informer, qu'on n'a pas besoin d'être informé. C'est totalement faux.
Mais ça reste une bonne méthode de contraception quand même.
Ça reste une méthode assez efficace de contraception, qui est pas efficace à 100%, by the way, mais enfin, qui reste quand même assez efficace. Mais il faut avoir cette discussion avec le prescripteur, il faut avoir cette discussion parce que quand on a des antécédents personnels de thrombose veineuse, c'est totalement contre-indiqué, on ne va pas là. Quand on a des antécédents personnels ou familiaux trop importants de cancer, qui sont des cancers liés aux hormones, cancer des ovaires, cancer du sein, c'est contre-indiqué, on ne va pas avec la contraception hormonale. Ce qu'on sait aussi sur le dossier de la jeune fille qui est très important à dire, c'est que le pourcentage de survenue de ces complications thromboemboliques est liée à la survenue des effets secondaires et notamment un effet secondaire qui est assez fréquent qui sont les maux de tête et les migraines. Donc cette jeune fille là, elle avait très très mal à la tête
depuis plusieurs semaines
et elle n'arrivait pas à consulter pour soit adresser la problématique soit potentiellement changer de contraception, ce qui aurait pu lui sauver la vie.
Donc il aurait fallu le prendre au sérieux.
Il aurait fallu absolument
le prendre au sérieux en partant.
Wow. Donc les gens qui ont ces types de contraception là, quand vous avez des effets secondaires et notamment des maux de tête, il faut absolument le considérer.
On arrête immédiatement. Tu vois, Evelyne sur la messagerie texte, elle avait l'anneau. Elle a dit, j'ai enlevé mon anneau. J'étais sur l'autoroute, je m'en foutais. J'avais une migraine dangereuse et c'était dû aux hormones. Fait que migraine, pas de migraine,
on arrête ça et on va consulter, on va voir son gynécologue, on va voir le médecin, son infirmière spécialisée, parce que on peut pas laisser ce genre d'effets secondaires sans les adresser.
Toujours extrêmement pertinent d'avoir Doc Ben Soussan avec nous.
Le meilleur des comiques sur demande.
Mesdames et
messieurs. Tout le monde commence à dire good.
Superstar, peut-être.
C'est un dossier facile.
Pierre Charles Jolicoeur.
Avec des affaires compliquées là-dedans.
OK.
Il dit une chance que tu nous aies épaulé là-dedans, parce qu'on s'est fait avoir du
storytelling, d'élégance, TikTok, des chiffres. Pierre Charles Jolicoeur.
On a un thème, bravo. PC, salut, merci d'être là avec nous encore ce matin. On t'entend mal, on va demander l'ouverture de ton micro, c'est réglé. La semaine dernière, on a reçu une question d'une auditrice concernant l'achat d'un premier plex. Elle voulait savoir comment on fait ça, et on va démêler ça avec toi aujourd'hui. Si j'ai l'intention d'acheter un plex, un immeuble à revenu, je vais te voir, tu regardes quoi d'abord, PC?
Ben, ça va être, on va commencer par une préqualification, un peu comme si tu voulais acheter une maison, si tu voulais acheter un condo. La seule différence, c'est qu'on va pouvoir qualifier davantage de revenus parce qu'on va pouvoir prendre une partie du revenu locatif que l'immeuble va venir générer.
Ouais.
Puis il va y avoir des prêteurs qui vont nous permettre d'exclure également les taxes foncières parce qu'ils se disent que le locataire que tu vas avoir dans l'autre logement va en payer une grande partie. Fait que ça peut venir augmenter quand même la capacité d'emprunt parfois entre une maison puis un plex après.
Ah oui?
Jusqu'à 100 000 piastres ça va être de plus entre une maison. Mettons, on a une maison avec un bachelor ou un triplex ou un quatreplex, mettons, on va dire comme propriétaire occupant, par exemple.
Je savais pas, donc ça compte beaucoup dans ton montage financier. Là,
quand même, ouais. Ça, c'est juste que souvent, le problème qu'on a, c'est que oui, tu peux venir emprunter plus, mais généralement, ces propriétés-là sont aussi plus chères.
Fait. Ouais. C'est ça. Ça s'annule un petit peu, là.
Il te faut une bonne capacité d'emprunt à la base, mais t'es capable, avec le petit revenu, d'aller en chercher un peu plus.
Exact. Ça va vraiment venir dépendre du secteur. Tu sais, exemple du monde qui vont aller plus vers Trois-Rivières, ces choses-là, mais ça peut quand même être game changer parce que c'est pas nécessairement beaucoup plus cher pour avoir, on va dire, juste une maison, mais avec un petit bachelor. Mais ben là, on peut venir le qualifier vraiment d'une façon plus locative, mettons.
En 2024, j'arrive puis je te dis, PC, je pense que je vais acheter un plex. Est-ce que tu considères que ça vaut la peine d'acheter un immeuble locatif?
On se fait souvent poser cette question-là parce que le monde sont comme, c'est-tu le bon moment d'acheter? C'est-tu le bon moment de... Surtout, mettons, un plex. Puis on avait la même réponse en 2020, mais là, le monde était comme, mais les taux, c'est 1,20, mais il y a de la surenchère. Puis aujourd'hui, le monde, c'est comme, oui, mais les taux d'intérêt sont rendus tellement hauts que ça vaut plus la peine. Mais c'est une question de chiffres, surtout pour un plex. Je trouve que c'est plus facile de se dire, est-ce que ça vaut la peine ou non? Parce que oui, tu peux regarder les taux, mais en bout de ligne, c'est quoi la rentabilité? Okay. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est break-even? Ou même, parce que des fois, le monde, il dit, ah oui, mais si je perds de l'argent, c'est pas nécessairement bon, mais ça dépend de voir c'est quoi ton objectif. Puis, tu sais, exemple que tu perds de l'argent côté mensuel, c'est combien tu perds? Parce que t'es capable à dire, OK, mais à plus long terme, sur combien de temps que je peux venir le rentabiliser? T'sais? Fait que de prendre du recul, puis de vraiment avoir le plus du compte, puis de faire attention aussi, je pense, ça, c'est plus savoir peut-être avec un courtier immobilier, mais à la qualité de l'immeuble que tu achètes. Parce que des fois, tu sais qui vont trouver des deals, mais
il y a de l'ouvrage à faire dessus, il y a des rénovations, donc il y aura des investissements à faire plus tôt que tard.
Exact.
Et l'appréciation du building, tu le considères-tu aussi là-dedans?
Exemple, parce qu'on a du monde qui vont venir acheter, qui vont financer, qui vont faire des rénovations, on va dire comme 100-200 000, puis après ça, un coup qu'ils vont l'avoir rénové, on peut venir le refinancer basé sur la valeur d'un évaluateur agréé. Fait que c'est faisable. Mais il y a certaines institutions financières qui vont demander que ça fasse un an qu'ils soient propriétaires avant de pouvoir comme refinancer.
Ouais, okay. Faut pas le donc, flipper, donc.
Exact. Mais il y a d'autres prêteurs que eux, ça leur dérange pas. Fait que c'est vraiment de voir qui a quel critère, mettons, pour...
Comment ça fonctionne au niveau d'une mise de fonds qu'on achète comme ça?
Ça va être un peu le même principe, dans le fond, que quand tu achètes pour une maison, à quelques exceptions près. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pouvoir aller en étant propriétaire occupant. Fait que ce qui veut dire, justement, exemple, que c'est un triplex, tu n'habites un, on peut prendre deux des logements, le revenu des baux. Puis pour un 3-4 logements, il faut que tu mettes au minimum 10 %. C'est pas comme une maison ou un condo que tu peux venir mettre juste 5. Mais mettons exemple que tu achètes une maison avec bachelor ou duplex, tu peux aussi mettre 5 au même titre qu'une maison.
Okay.
Mais la troisième façon, c'est si tu mets 20 % de mise de fonds, ben là, il y a même beaucoup de prêteurs qui ont des grilles locatives. Fait qu'on peut vraiment les qualifier d'une façon vraiment plus avantageuse, que ça va parfois venir même doubler ta capacité d'emprunt. Tu pouvais juste emprunter pour 400 000, mais vu que l'immeuble est comme rentable et qu'on peut le mettre dans une grille puis qui s'auto-suffit, si on peut dire, la banque va pas nécessairement venir le qualifier comme étant une dette. Un petit peu comme au commercial, mais plus de liberté vu que ton salaire vient vraiment supporter la demande.
Sauf que 20 % de 400 000, de 500 000, 600 000,
c'est de l'argent.
On pense à Montréal, là, on est rendu plus à 800-900 000 là, pour avoir un duplex, triplex. Là. Ça finit par être pas mal d'argent.
Parce qu'on s'est fait justement beaucoup dire ça. Est-ce que c'est mieux de mettre 5 ou 20 %? Mais c'est vraiment une question de ça va venir dépendre de ta situation financière. Est-ce que mettre 20 % ça va te prendre 5-10 ans ou ça va te prendre 1-2 ans versus mettre 5?
C'est ça.
Si t'es capable d'acheter tout de suite, t'es peut-être mieux de mettre 5 parce que la prise
en valeur... d'acheter tout de suite, donc.
C'est du cas par cas, mais personnellement, j'aurais tendance à te dire que oui.
On te garde avec nous, PC. Nos auditeurs ont plein de questions. Ça fuse sur la messagerie texte.
Le podcast Debout les comiques.
Ah, je trouve qu'on est chanceux d'être avec PC Jolicoeur ce matin encore, qui nous parle d'investissement immobilier. Ouais. On était plutôt là-dessus. On va aller avec les questions des auditeurs. Étienne, on en a plusieurs ce matin.
Ben, il y a beaucoup de questions sur la cote de crédit, en fait. Et c'est Marie-Hélène qui nous écrit. Elle voulait savoir c'est quoi la meilleure méthode pour remonter une cote de crédit. Puis, je vais enchaîner. Il y a une autre question aussi qui est en lien. C'est si on paye le minimum de la carte de crédit par mois, est-ce que les intérêts continuent de s'accumuler sur le montant?
Ouais, ben en fait, pour commencer par répondre à cette question-là, c'est sûr qu'exemple que tu fais le paiement minimum, tu payes juste comme l'intérêt, mais le mois d'après, tu vas repayer l'intérêt sur le même solde parce que techniquement, tu n'as pas descendu ton
solde. Tu t'en sors pas.
Exact. Fait que c'est pour ça que c'est dangereux, les cartes de crédit, parce que tu peux venir vraiment cumuler que le payer de l'intérêt sur de l'intérêt, puis là, tu descends jamais le solde, finalement. Là. Fait que c'est important de faire attention. Puis pour répondre à la question face à...
La cote de crédit.
La cote de crédit, tu sais, ça va... Personnellement, je trouve que les meilleures façons, c'est justement de faire rouler des cartes puis des marges de crédit, parce que c'est quelque chose qui va être peut-être plus facilement accessible. Puis, exemple, de venir démontrer des bonnes utilisations. Fait que d'avoir des limites d'au moins 2000, parce qu'il y a certaines... institutions financières, même que le monde ne le savent pas ça souvent, mais il y a même des cartes de crédit qui vont être meilleures que d'autres, qui vont, mettons, parce qu'ils vont être plus dures à avoir. Souvent, même les cartes de crédit des institutions financières directement. Tu sais, souvent, il y a des compagnies comme Capital One, ça, c'est des cartes de crédit qui vont être plus faciles. Exact, comme, mettons, comme plus facile à venir à avoir. Fait que, mettons, en fonction de ta limite, puis aussi du type de carte, mais Equifax, TransUnion va,
Oui, en fait, c'est parce que, tu me disais la marge de crédit, là. Mettons que j'ai une carte de crédit ou une marge de crédit, je l'ai, là. Mais je l'utilise peu. ouais. ou je l'utilise pas, est-ce que ça améliore quand même ma cote de crédit ou faut que je la fasse rouler, faut que je mette des dépenses dessus pour montrer que je suis responsable, tu sais, que je repaye?
Ça va être un mix un peu des deux, je te dirais. C'est sûr que les marges, tu vas avoir peut-être tendance à moins les utiliser que les cartes, fait que c'est normal qu'il y ait moins de roulement. C'est nécessairement négatif? Non, parce qu'à l'inverse, si tu as une marge de 5-10 000 puis qu'ils voient que t'as pas de retard dessus puis que ben tu l'utilises pas tant, tu pourrais l'utiliser, fait que ça démontre quand même que t'es pas quelqu'un qui va venir utiliser du crédit de façon excessive.
Tu as des ressources, tu sais, s'il y a quelque chose.
Exact, fait que d'avoir du crédit rotatif 2-3 lignes avec idéalement des cartes avec des limites de 2 000, c'est le meilleur.
Il y a Guy sur la messagerie qui dit « Je me divorce et j'ai décidé de garder la maison. » Fait que je dois enlever le nom de mon ex de sur l'hypothèque. Là, je pense que c'est tout un dossier. Là. Il dit « Est-ce que je conserve l'hypothèque que j'ai déjà, je le mets à mon nom, tout simplement, ou est-ce que je devrais renégocier une nouvelle hypothèque? » Et il précise « Moi, j'ai un taux variable actuellement et il me reste 3 ans sur mon terme. »
C'est que ça va dépendre parce que généralement, quand tu te sépares ou quand tu divorces ou whatever, faut que tu viennes racheter les parts de la maison.
Okay.
Fait que tu peux pas juste reprendre l'hypothèque seule. Ben oui, tu pourrais peut-être, mais ça se peut qu'il va falloir que tu y donnes un certain montant. Fait que tu n'auras pas le choix de nécessité de peut-être venir renégocier.
Oui.
L'avantage que tu vas avoir, c'est qu'en taux variable, c'est que, mettons, vu que tu es en taux variable, tu as juste 3 mois d'intérêt de pénalité. Fait que les pénalités sont très faibles.
Okay.
Qui peut tomber avantageux.
Tandis que contrairement à si t'es un taux t'es fermé, mettons, c'est plus.
Ça peut devenir vraiment, vraiment cher. Puis, fait que ça va dépendre de l'entente que tu vas avoir, mettons, avec ton ex-conjointe.
Ouais.
Ou fait que
si avec l'ex, mettons, a dit, moi, je veux rien, tu sais, fais juste vraiment prendre le prêt.
Exact. Si on appelle ça une assumation hypothécaire, c'est qu'on enlève l'autre, mais on garde le prêt tel quel. Fait que c'est de voir est-ce que ton institution financière va te l'offrir, parce qu'il y en a qui l'offraient, mais qui l'offrent plus ça à ce temps.
Ah, ouais.
Okay. Ouais. Fait que ça se peut qu'ils veulent pas le faire, ça se peut que oui. C'est vraiment, c'est du cas par cas. Techniquement, si t'es capable de le faire, ça peut valoir la peine, surtout, tout dépendamment de ton taux d'intérêt.
Ouais.
Si t'as les taux, mettons, qu'il y avait durant le COVID, on va tout faire pour essayer de le garder, là, c'est ça.
Ouais, c'est clair.
Il y a William qui veut savoir, pour un gars de la construction qui veut acheter bientôt, est-ce que ça prend le chômage? En fait, est-ce que le chômage est dommageable pour la demande d'hypothèque? On comprend que lui, l'hiver, il est sur le chômage, puis il y a des revenus de construction le reste de l'année. Quand tu fais ta demande, c'est-tu sexy ou pas, ça, d'avoir du chômage?
C'est une excellente question, parce que tout dépendamment du domaine, parfois, on va pouvoir venir considérer le chômage, puis des fois, on ne pourra pas considérer le chômage, mais dans la construction, c'est quelque chose qu'on va pouvoir le considérer.
Exactement.
Parce qu'il y a beaucoup de. La majorité des gars de construction sont saisonniers, fait qu'on va pouvoir venir le prendre. Là, où est-ce que c'est plus touché? C'est qu'on est rendu en 2024, right? Fait que techniquement, 2023, on est capable d'avoir, mettons, le cumulatif de combien qu'ils ont fait mais dans l'année, mais les T4 de chômage sont pas encore sortis. Fait qu'on est encore capable de venir se baser sur 2021 puis 2022 pour voir, OK, mais avec son chômage, en moyenne, normalement, combien que la totalité
par donne? Année, à peu près.
Même chose pour l'enseignement. Quand ils sont pas permanents, ils ont du chômage l'été, comme 2 fois par année, mais ils ont du chômage,
ouais.
On peut le considérer. Mais exemple que tu travailles, on va dire, pour...
Je travaille dans un garage, mettons, puis il n'y a pas de raison que ça ferme.
Exact. Puis là, mettons, mais du chômage, ça, on pourra pas venir le considérer, à moins qu'on ait vraiment une preuve que c'est une job saisonnière là-bas. Mais encore là, tu sais, ça va être dur. Mais quand aussi qu'on va dire que tu as plus de chômage que de revenus d'emploi, exemple que tu es à la construction, là, peut-être qu'on pourra pas le prendre. Mais généralement, oui.
Moi, on n'aura pas le temps, mais il y a Julien, 17 ans, qui nous a écrit, mais la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on parle du crédit puis de ça pour les jeunes. Il y a comme quelque chose, parce que lui, il a une carte de crédit, puis à 17 ans, on dirait que moi, je suis comme...
Y a-tu le droit à 17 ans d'avoir une carte de crédit?
Ben oui, en fait, lui, en tout cas, il y en a une qui
est passée 16 ans.
Je pense pas, mais peut-être si un parent l'endosse, mais je sais pas si ça serait à confirmer.
Peut-être, mais c'est 18 ans,
une carte de crédit.
Mais je trouve ça intéressant, le crédit sur les jeunes, chez les jeunes, puis peut-être l'éducation qui manque de ce côté-là.
Seront-ils capables d'acheter?
Ouais.
Pour vrai, c'est plate à dire, mais c'est ça la réalité.
Tu sors du cégep, puis ils t'attendent avec une carte de crédit à sortie, là.
Mais ils t'apprennent pas comment l'utiliser, par exemple.
Exact. Hey, le piège, toi. Le piège. Mm-hmm.
Vous avez compris entre les lignes qu'on va réinviter PC la semaine prochaine. Ben
oui,
parfait. PC Jolicoeur ici dans Debout les comiques. On est très content de l'avoir avec nous autres. Merci, mon cher PC.
Merci
bon week-end. À la semaine prochaine.
Le podcast Debout les comiques.
Je me dépêche pour replacer mes écouteurs. Je les enlève. Ils revolent comme un spring. On a une personne gagnante pour le Dent à face cloutier.
Quelle planète de notre galaxie est la plus éloignée du Soleil? Je cherchais Neptune pour le mot nouvelle dans la phrase. Félicitations à Sabrina Séguin de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui gagne ce matin.
La semaine dernière, à la même heure, mesdames et messieurs, est arrivé ceci. Patrick Joly de Rosemère, vas-y de toutes tes forces.
Dans ta face, cloutier!
Il y a même Marie-Claude sur la messagerie texte qui dit « Wow, je veux Patrick comme chum, est-ce qu'il est célibataire? » Tabarnouche! T'es célibataire, Pat? Attends, t'as pas attendu?
Oui, je le suis.
Oh,
attends un peu, là! Attends un peu, on va appeler Marie-Claude. Allô, Marie-Claude.
Allô.
Qu'est-ce qui t'a allumé, genre?
Je pense que c'est son sens de la répartie.
Patrick, t'as entendu Marie-Claude? Est-ce que à l'écoute de la voix de Marie-Claude, tu serais d'accord pour peut-être lui parler à Marie-Claude?
Ben oui, moi, je suis un gars ouvert. Puis...
Patrick, toi, t'es de Rosemère. Marie-Claude, t'es de où, toi?
Ouais. Ouais.
Moi, je suis de Lorraine.
Non! Ça va faire le petit couple de la 640, on s'en va là-dedans. Wow. Et là, ce matin, on parle avec c'est Marie-Claude et Patrick. Bon matin à vous deux.
Bon matin.
Allez.
Là, Marie-Claude, finalement, vous vous êtes parlé pour vrai cette semaine, depuis une semaine.
Ben, non seulement on s'est parlé, on s'est aussi vu.
Ah oui, pour vrai, je sais pas ce que t'es en train de faire. On dirait que t'es en train de faire...
Tu déménages déjà chez eux.
Ouais. Marie-Claude, donc, vous vous êtes déjà vu. Patrick, comment ça s'est passé, votre rencontre?
Ben, très bien. Écoute, on a décidé de battre le fer pendant qu'il était chaud. Puis on est allé prendre une bière le soir même.
OK.
Tu sais, pour, on brise la glace. Puis,
oui.
Puis ça a été... Finalement, ça a été deux bières, une bonne jasette, super cool. C'était oui. Vraiment... Tu sais, quand tu t'attends à rien, c'est agréable.
La vérité, c'est que dans le fond, je veux dire, c'était un blind date. Vous vous connaissez pas,
ben
vous
oui,
n'étiez jamais vu auparavant. Fait qu'il y avait cette affaire-là. Mais est-ce que ça a facilité votre première rencontre que d'avoir eu cette expérience à la radio? Parce que c'est quand même une
ça faisait un sujet, en tout
ben
cas.
Ben oui.
Oui,
ben pour ma part, ça a facilité. Ouais, je viens.
Oui, vas-y, Marie.
Pour ma part, ça a facilité. Oui, parce que tu sais, on est un peu tanné des swipes à droite, swipes à gauche.
Ouais.
Puis le fait que ce soit à la radio, ben je vous ai écrit parce que il m'a allumé, il m'a plu quand je l'ai entendu. Fait que je savais que déjà ça me plairait. Fait que peu importe la suite, que si l'apparence physique était là ou pas, il m'attirait. Ben je savais que j'allais avoir une belle soirée. Fait que j'allais là. Quand même confiante.
Ah mais c'est hot, mais c'est-tu la première fois de ta vie que tu accroches avec ce que quelqu'un dit, mettons, tu sais, juste à l'entendre?
Ben, l'entendre sans le voir, oui.
Ouais.
Parce que, tu sais, des fois, on est à quelque part, on fait une rencontre, la personne est agréable, mais on l'a devant nous. Là, ouais. C'était vraiment, je savais pas de quoi il y avait l'air.
Et là, je vais aller dans le creux du sujet, là, dans le vif du sujet. Quand vous vous êtes vus, est-ce que vous vous êtes quand même plu?
Oui.
Ben
oui.
Je dirais que oui.
Oh, c'est
tellement de petits rires. Oh, je suis toute là.
OK, fait, attendez. Fait que là, on comprend.
C'était un gros soulagement en
oui.
Même temps.
Ben oui.
OK, phew. Ça sera pas juste soyons polis et finissons-en.
Oui, oui, ouais, parfait. Fait que là, je trouve que je comprends que quand vous avez écrit par message texte, vous avez parlé avec M. le juge, vous avez dit on s'est déjà vu, on se parle, donc on continue la. Puis là, vous planifiez vous revoir. Évidemment, on met aucune pression, mais est-ce que
mais
c'est
non.
Encore le cas? Est-ce que vous désirez encore avoir une autre date?
Ben oui.
Patrick, c'est oui, ça, quand tu ris de même.
Je suis fier de moi.
Ah ouais, j'adore tout ça.
Hey, pour vrai, est-ce que vous riez ensemble parce que c'est important, ça, là?
Ben, surtout, c'est ça qui fait que ça clique, là, vraiment, l'humour. Puis juste, on se texte pas mal, là, c'est le fun. Là, la façon que quelqu'un écrit, on dirait que ça en dit beaucoup. Moi, je trouve.
Puis
là, il y a une belle, très belle complicité. Hey, ça coule naturellement, ouais.
Pat, t'as utilisé, t'as dit... Ça clique. Oh, c'est
oui,
tellement
c'est ça.
Non, mais on fait des
farces. C'est moderne, hein?
Non, mais,
non,
mais on fait
cool,
des farces, mais ça me touche. Oui, j'étais à la même place, Valérie.
Ça,
je suis touché par ça parce que pour vrai, c'est le hasard.
Ouais.
Tu sais, Marie-Claude écrit ça 3 minutes après, on le voit pas. On rappellera pas Pat pour lui dire que Marie-Claude veut le voir.
Ouais, ouais.
La circonstance dans laquelle les choses sont arrivées. Hey, écoute, je souhaite que ça continue.
Ben
on
oui.
Dirait juste ça, c'est fou. Là.
Ben
Marie,
oui.
Marie, t'as quel âge, toi?
Moi, j'ai 41 ans.
Puis Pat?
Moi, j'ai 50.
Puis c'est quand même extraordinaire parce que, veux pas, de nos jours, là, t'sais, Marie, t'as commencé en parlant de ça, mais le fait de swiper, là, je pense que c'est comme de plus en plus dur de rencontrer naturellement quelqu'un. Fait que, Marie, t'as pris le destin, puis t'as décidé de changer un peu les choses et je te trouve extraordinaire.
Ben, c'est comme si vous avez sauté une étape, ben tu sais l'étape plate de du premier, le premier contact.
Okay.
Là,
oui,
il était fait à la radio, vous saviez déjà vers où vous en allez. C'est magnifique.
C'est parfait ça.
Ah ouais, vraiment, bravo.
Oui, ça m'a fait. Mais vous avez pogné la balle au rebond, bravo à vous. Merci beaucoup.
Ben écoute, merci beaucoup.
C'est une belle histoire,
c'est une magnifique histoire. Puis redonnez-nous des nouvelles, redonnez-nous des nouvelles mais sans
faites
pression.
Vos affaires,
faites vos affaires, amusez-vous puis regarde, on est super contents et je vous aime les deux, juste à vous entendre, Caroline. Ça marche. Merci. Oh,
merci beaucoup.
La Saint-Valentin s'en vient.
Ben, c'est ça. On aurait peut-être besoin d'un peu d'aide, là, pour ça.
Oui,
que je m'en occupe.
Pat et Marie-Claude, si dans la vraie vie, vous datez encore à la Saint-Valentin, je jure sur ma tête qu'on va vous organiser quelque chose.
Ben oui.
Aimez-vous ça, le camping d'hiver?
Non.
Allez, on vous embrasse, Marie-Claude et Patrick. Salut.
Merci, bye.
Personne n'aime ça, le camping.
Ils sont parfaits. Caroline.
Le podcast Debout les comiques.
C'est 23.